in these times, we have to unify. We have to come together and send one very clear, strong, unmistakable message that acts or threats of political violence of any kind have no place in the United States of America.
Voilà donc les déclarations du président américain Donald Trump qui a dit « Les intimidations, la violence politique n'a pas sa place, notamment dans les États-Unis d'Amérique, aux États-Unis d'Amérique. » La Maison-Blanche avait déjà condamné les tentatives d'attentat via l'attaché de presse de la Maison-Blanche, la porte-parole Sarah Huckabee Sanders, qui avait lu un communiqué, mais ensuite le président s'est adressé donc lui-même pour réaffirmer ce qu'il vient de dire. Condamnation de cette vague de colis, de cette vague de violence politique. Ou enfin, on verra bien, puisqu'il a dit que toutes les ressources de l'État seraient consacrées à une vaste enquête. Quand on dit toutes les ressources possibles pour cette enquête. Laurence Haïm est correspondante à la Maison-Blanche. Laurence, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, journée d'agitation, je vais reprendre ma dernière phrase en disant que Donald Trump a confirmé que toutes les ressources seraient mises, les ressources disponibles seraient mises sur une enquête pour tenter de retrouver un ou des coupables.
Oui, absolument. Et ce que je peux vous dire, c'est que là, je suis à la Maison-Blanche. Je peux déjà vous dire qu'il y a une atmosphère assez étonnante avec beaucoup de journalistes qui attendent de voir dans quelques instants le président Trump qui va sortir de la East Room pour prendre l'hélicoptère et peut-être s'adresser à la presse avant un prochain meeting qu'il fait ce soir. Il y a beaucoup de sécurité ici à la Maison-Blanche, beaucoup plus que d'habitude, avec des snipers qui sont postés devant la Maison-Blanche, des doubles barricades qui ont été mises. Et il y a un climat, comme votre correspondant le disait il y a quelques instants, qu'on a très rarement connu aux États-Unis au cours des dernières années. C'est un climat de violence politique intense, avec évidemment une enquête pour déterminer qui a envoyé ces colis piégés, pourquoi ces colis piégés aussi n'ont pas explosé, comment précisément ces lettres piégées ou ces colis piégés sont arrivés, à quelles adresses précises, qui connaissait les adresses précises, par exemple de la lettre qui est arrivée au bureau personnel de Barack Obama. Et donc il y a toute une enquête qui est en train de se mettre en cours pour déterminer qui a fait cela, qui est responsable, et surtout il y a une peur de voir dans les médias américains et chez certains sénateurs démocrates importants, il y a une peur de « est-ce que moi aussi je vais recevoir un colis piégé ?» et « est-ce qu'il y a vraiment un risque que ce colis piégé ne soit pas désamorcé à temps ?» Il peut y avoir des victimes, c'est ce qu'on entend. Il y a un drôle de climat vraiment à Washington en ce moment.
Il y a un dénominateur commun, Laurence Haïm. Ce sont toutes des menaces adressées à des politiciens, politiciennes, démocrates. En ce sens que...
Oui, alors vous avez raison de le dire, parce que ça a commencé il y a 48 heures avec un colis piégé qui est arrivé dans la résidence secondaire de George Soros. George Soros, c'est un financier à New York extrêmement important qui a financé la campagne, une partie de la campagne d'Hillary Clinton, qui est très proche du Parti démocrate, qui est très proche d'Hillary Clinton. Et donc, il y a 48 heures, on a appris qu'un colis piégé était arrivé et qu'une employée de maison l'avait désamorcé. Ce qui est inquiétant, c'est de voir que les colis piégés arrivent chez des gens, vous l'avez dit, qui sont des démocrates très connus, comme Barack Obama, Bill et Hillary Clinton, mais aussi dans des médias. Il y a quand même un colis piégé qui est arrivé chez nos confrères de CNN, qui était adressé au président de CNN. Vous savez que Donald Trump, dans ses meetings, parle souvent de CNN, en critiquant les positions libérales, selon le président des États-Unis, de CNN. Et donc, ce sont des gens qui ont des idées libérales, qui ont des idées démocrates, qui le disent publiquement, qui sont visés. C'est une première aux États-Unis. En tout cas, depuis les 20 dernières années, on n'a jamais vu cela. Et donc, tout le monde se demande que va-t-il se passer maintenant.
Et Laurence, on ne peut faire autrement que de songer au fait qu'il ne reste que 13 jours avant les très importantes élections de mi-mandat pour renouveler le Congrès.
Oui, mais ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de voir les conséquences que ça va avoir. Parce que vous avez quand même des démocrates importants qui, comme David Axelrod, l'ancien stratège de Barack Obama, disent « le président Trump a une responsabilité certaine dans ce qui est en train de se passer ». Pourquoi ? Parce que le président Trump, dans ses meetings, est très populiste en ce moment. Il fait des meetings où il y a des milliers de personnes qui l'applaudissent. Il aime faire rire la salle. Il aime être, comme il l'a été pendant la campagne 2016, provocateur. Et il dit des choses qui sont, comme on dit en américain, vraiment borderline, c'est-à-dire sur la frontière. Et depuis quelques mois, les médias américains, mais aussi les démocrates, ne cessaient de répéter « il joue avec le feu » et un jour, quelqu'un va l'écouter et quelqu'un, par exemple, va tirer sur un journaliste.
Ouais.
Eh bien, la crise d'aujourd'hui, c'est justement ça. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce moment où le président Trump ne s'est pas rendu compte de l'importance de ses mots, et finalement les mots ont une portée et ont incité des gens à faire des choses qui sont bien évidemment des choses criminelles et répréhensibles.
Merci beaucoup Laurence Haïm à Washington. Tout de suite nous passons à Céline Bruno, correspondante à New York. Céline Bruno, bonjour.
Bonjour.
On a fait le point, les autorités, mais aussi le gouverneur Andrew Cuomo et le maire Bill de Blasio qui a parlé de terreur, comme dans le sens du terrorisme.
Oui, tout à fait. Hein. Ils ont tous les deux condamné un acte terroriste ici à New York, dénonçant avoir pris pour cible la liberté de la presse et les leaders du pays. En tout cas, ici, en plein cœur de Manhattan, eh bien, la police encadre toujours le building de CNN. Les journalistes n'ont pas pu retourner travailler après la découverte de ce colis piégé ce matin. Bill de Blasio et le gouverneur qui, en tout cas, affirment que la ville de New York va résister à ces menaces.
C'est l'édifice, quand on parle de CNN, on parle à New York de l'édifice Time Warner. Et donc, ça a forcé l'évacuation très rapide de tous les occupants de l'édifice.
Oui, voilà, ça a été une scène assez hallucinante, hein, puisqu'on a assisté ce matin en plein journal télévisé à une interruption due à l'alarme de sécurité, l'alarme incendie. S'est déclenché. Alors au début, les présentateurs ont continué à faire leur travail et puis finalement, on a entendu ce message d'alerte demandant à tous les salariés de quitter au plus vite le building après la découverte de ce colis piégé. Alors au début, ils ont continué à travailler sur leur téléphone dans la rue. Hein. C'était assez incroyable comme scène et puis finalement, c'est le studio de Washington qui a dû prendre le relais.
C'est donc les autorités de la police de New York, le NYPD et aussi le département des incendies qui sont chargés de trouver les engins et très prudemment de les amener dans une zone où ils auraient été moins dangereux, en fait pour certainement les analyser ou les faire exploser.
Oui, voilà, c'est ce qui se passe exactement. Hein. Tous les colis ont été récupérés par le FBI. Ils sont en cours d'analyse et on est en train aussi de les comparer. En tout cas, on dirait qu'ils sont tous plus ou moins semblables. Hein. Le même genre de bombe artisanale à chaque fois, visiblement avec un procédé assez amateur. L'une d'entre elles, au moins, a précisé la police, était quasi recouverte de timbres, hein, beaucoup plus que nécessaire, sans doute pour éviter à l'expéditeur de se présenter à un guichet de poste. En tout cas, la charge explosive visiblement était peu importante, mais elle aurait pu blesser quelqu'un. Alors Hillary Clinton, elle était en Floride quand elle a reçu le colis. Barack Obama, lui non plus, n'a pas été en contact et donc pas menacé directement par l'explosif.
Merci beaucoup Céline Bruno à New York.
Merci.
Au revoir. Alors, donc, CNN a diffusé les images de l'un de ces engins artisanaux. Ça ressemble vraiment à ce qu'on appelle la définition d'un engin explosif improvisé. C'est pas très gros, ça ressemble à peu près à la grosseur d'un micro comme dans celui où je vous parle. La bombe, c'est une bombe tuyau, souvent appelée la pipe bomb. Et c'est formé d'un étroit tuyau qui est scellé d'abord, mais rempli de façon très compacte d'explosifs. À la différence des bombes qui avaient explosé, rappelez-vous, à Boston, à la fin du marathon de Boston, qui avait causé la mort de quelques personnes, en plus d'en blesser d'autres très gravement. Ça, c'était plutôt une bombe de ce qu'on appelait une cocotte minute, là, qui ressemblait à un presto. Tandis que là, vraiment, il semble que ce soit des engins de ce type-là, de bombes tuyaux, en tout cas selon les images fournies par CNN. Raphaël Jacob, on s'amène tout de suite. Il sera de retour, bien sûr, à 15h50 avec sa chronique, spécialiste de la politique américaine. Salut, Raphaël.
Bonjour. Bonjour, Paul.
Alors, Raphaël, hier, on insistait tous les deux, on disait que la tension allait monter d'une certaine façon, la tension politique, bien sûr, à cause de nombreuses apparitions, notamment de Donald Trump dans des assemblées partisanes, parce que nous sommes en ce moment à 13 jours de ces élections capitales pour renouveler la Chambre des représentants et le Sénat.
Et là, Paul, on se parlait hier du fait que les bases des deux partis politiques, le Parti républicain et le Parti démocrate, n'avaient jamais été aussi intéressés, aussi motivés, aussi enflammés en vue d'un scrutin de mi-mandat. Mais la force est de constater qu'il y en a au sein de cet électorat américain-là qui ont poussé le bouchon peut-être un petit peu trop loin dans leur enthousiasme. Il faut comprendre que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la démonstration la plus extrême d'une tendance qu'on observe depuis les dernières semaines. Tu as eu déjà des choses, disons, assez suspectes qui ont été envoyées, des colis suspects qui avaient été envoyés notamment à la résidence de George Soros, un homme dont on parle beaucoup plus aujourd'hui parce qu'il fait partie des gens qui ont reçu donc ces explosifs-là, mais il avait déjà reçu des colis suspects à sa résidence au courant des dernières semaines. Ça, c'est quelqu'un qui est affilié avec le Parti démocrate depuis des années. Et de l'autre côté, le leader de la majorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, de la Californie, qui avait vu son domicile carrément être vandalisé au courant des dernières semaines aussi. Et ça, ce n'est pas normal, Paul. C'est vrai que c'est sûr qu'on est dans un environnement très enflammé actuellement politiquement aux États-Unis. Mais là, quand on déborde dans la violence politique, on est dans un tout autre registre. Et c'est ce qu'on observe depuis les dernières semaines et surtout depuis les dernières heures.
C'est ce qu'a affirmé le président américain Donald Trump. Mais Laurent Saïm nous rappelait que toutes ces envolées oratoires dans les grandes assemblées, là où il prend souvent un ton menaçant, assez dégradant dans certains cas, Laurent Saïm disait, il y a plusieurs observateurs qui disaient, un jour, quelqu'un va interpréter ça, là, au premier degré, va vouloir passer à l'action. Le fait que CNN ait été ciblé aussi en est peut-être la preuve.
Ben ça aide pas. On se rappellera évidemment, Paul, du tweet que Donald Trump avait envoyé l'été dernier, pas l'été 2018, mais l'été 2017, dans lequel on le voyait se battre avec quelqu'un qui avait le logo de CNN sur le visage. Et ça avait été interprété par moi le premier un petit peu comme étant loufoque à l'époque. Mais il reste que c'est sûr que s'il y a des personnes désaxées qui se sont inspirées de ce genre de propos, de gestes, de tweets-là à la limite pour passer à des actes aussi haineux, aussi ignobles, encore une fois, on est dans un tout autre registre. Et c'est sûr que ça enlève aussi, jusqu'à un certain point, de la crédibilité au président américain qui, dans une journée, lors d'une journée comme aujourd'hui, n'a pas le choix que de se présenter comme le père de la nation, comme l'être rassembleur. Mais Donald Trump a été un président si divisif que c'est sûr qu'il est très mal placé aujourd'hui pour occuper ce rôle-là, même si, encore une fois, on ne peut pas tisser un lien direct entre ses propos et ce qu'on a vu aujourd'hui.
Pour le moment. Va se reparler à 15h50 dans une perspective plus large, justement à l'approche de ces élections de mi-mandat qui risquent d'être historiquement extrêmement tendues. On n'a jamais vu ça dans le passé, comme disait Laurence Haïm. Merci beaucoup, Raphaël Jacob. À plus tard.
À tantôt.
Voilà où on en est. Et plus tard, nous allons parler de ces engins explosifs et comment ils sont manipulés par l'escouade tactique. On dit que celle du NYPD, du service de police de New York, est parmi les meilleurs services tactiques, c'est-à-dire les meilleures escouades tactiques dans le déminage ou dans la manipulation d'engins explosifs. Et plus tard dans l'émission, les Clinton visés directement avec un engin à proximité de leur résidence de Chappaqua dans l'État de New York seront à Montréal le 28 novembre pour y prononcer une conférence au Centre Bell. Vous vous imaginez les mesures de sécurité cette journée-là. On en reparle plus tard.